Je me souviens quand j'étais lycéenne, je portais des t-shirts à texte. Il y en avait un avec un rond et un rectangle qui se tenait la main. Stop racisme, en gros, au-dessus d'eux. J'allais changer le monde. Et puis, j'en avais un noir avec la terre, immense, magnifique, bleutée. Et cette inscription, merci de laisser cet endroit dans le même état qu'en arrivant. Mais j'ai beau essayer d'être raccord avec mes idéaux d'adolescente, c'est compliqué. Comment ne pas polluer? Comment ne pas produire de déchets? Notre première invitée, Bénédicte Moret, tient le journal d'une famille zéro déchet. Pas de discours moralisateur, juste des conseils, des astuces et des erreurs, comme tout le monde. Vos questions au 01 45 24 7000 et avec le mot-clé « Chacun sa route » sur les réseaux sociaux. Dans la deuxième partie de notre émission, un voyage, comme chaque jour, à partir de 14h. Direction la forêt amazonienne, ses élixirs de liane et les chamans qui y vivent. Un voyage spirituel, intérieur, avec pour guide le réalisateur Yann Kounen. Une transe, ou presque, réalisée par Clément Nouguier et, à la technique, Pierre-Yves de Rolin.
Chacun sa route. Élodie Font, sur France Inter.
Vous voulez un sac plastique ?
Ça pue ! Son forgeur. Matière recyclable souillée. Les employés du centre de tri finissent tout mouillés. Oh my god. Mets du respect dans ton back. Back, 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 back.
Bonjour Bénédicte Moret.
Bonjour Élodie.
En duplex de France Bleu Pays Basque, à Bayonne, vous êtes une sorte de Marie Kondo des déchets. Non seulement vous êtes pour les trier, évidemment, mais vous êtes surtout pour ne pas les produire. Vous avez sorti en BD The Journal de la Famille Presque Zéro Déchet aux éditions Le Lombard, une adaptation de votre site, familleszérodéchets.com, et de votre guide, sorti en livre en 2016, diffusé à plus de 200 000 exemplaires. Alors, c'est faisable ou pas de laisser la Terre aussi propre qu'on l'a trouvée en arrivant ?
Alors, peut-être pas aussi propre, mais l'important, c'est de faire de son mieux. Donc, je pense qu'on peut déjà faire largement mieux que ce qu'on fait aujourd'hui.
Vous êtes lancée en 2014 dans le zéro déchet, il y a déjà plusieurs années. Donc, comment vous y avez pensé la première fois ?
Alors, en fait, nous, on travaillait dans l'écologie depuis très longtemps. On faisait des ramassages sous les télésièges, sur les plages, tous les ans. Et on s'est rendu compte, en fait, que tous les ans, il y avait autant de déchets que l'année précédente. Donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment un souci de fond. Et que finalement, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, on s'est dit, peut-être qu'il faut vraiment viser à arrêter de... Enfin, en tout cas, changer son mode de consommation, son mode de fonctionnement pour pouvoir réduire à la source.
Mais ça vous est venu comme ça, un matin vous vous êtes levé et puis vous vous êtes dit on y va, on arrête les déchets ?
Ça a été un petit peu long, c'est-à-dire qu'on aimait beaucoup voyager en famille, on aimait beaucoup de faire des choses et quand les enfants étaient petits, c'était compliqué. Et on a eu vu plein d'expériences de gens qui faisaient des aventures familiales, arrêter de prendre la voiture, arrêter de manger du sucre, enfin plein de choses comme ça. Et on s'est dit, si on faisait ça à la maison, ce serait un peu comme vivre un voyage, mais à la maison. Donc on s'est dit, on va se faire une petite aventure et qu'est-ce qu'on va faire ? Le plus logique pour nous, c'était arrêter de produire des déchets, vu que c'est ce dont on parlait tout le temps dans toutes les assos pour lesquelles on a travaillé.
Oui, parce que j'ai ri en lisant votre BD. Vous ne pouviez pas voyager parce que vous aviez une fille, en l'occurrence, qui pleurait beaucoup en voyage et que c'était un peu compliqué de prendre les transports avec elle, apparemment.
Voilà, c'est ça ma petite fille Mali, qu'on a appelée Malinator pendant des années tellement elle était terrible. Elle en rit beaucoup aujourd'hui, c'est une blague maintenant.
Vous êtes donc une famille de 4 personnes, plus 2 chats. La moyenne annuelle des déchets d'une famille, c'est 390 kilos de déchets ménagers. Et en un an, vous êtes passé à 25 kilos seulement. Vous y êtes allé par étapes, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez fait en premier ?
Alors oui, tout à fait. La toute première étape, ça a été d'analyser vraiment qu'est-ce qu'on produisait comme déchets. Donc on a pris notre poubelle, on l'a vidée sur une bâche et on a regardé ce qu'il y avait dedans. On s'est rendu compte que le premier secteur, c'était quand même l'alimentation. C'est quand même assez facile de modifier ce secteur-là. Du coup, on s'est équipé, on s'est fabriqué des petits sacs à vrac, on a récupéré des bocaux, des boîtes en verre et on est allé voir nos petits producteurs et on leur a demandé s'ils pouvaient nous servir directement dans nos propres emballages. Donc on s'est très rapidement rendu compte aussi que les supermarchés étaient du coup... le premier endroit où on avait du plastique. Mmh. Et quand on revenait aux commerces locaux, on réduisait déjà la note de au moins 50%.
C'est donc ça la première étape, voilà, c'était première étape. Effectivement de vous rendre compte que les déchets ménagers dans la cuisine étaient ceux qui prenaient le plus de place, on va dire, dans une poubelle. En moyenne, puisque je parlais de chiffres, là je disais 390 kilos de déchets ménagers par an. En moyenne, un Français génère aujourd'hui 12 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc presque deux fois plus si on compte la pollution qui est créée par votre argent qui dort à la banque. Hein. Mais on en parlera plus en profondeur dans une autre émission de cette épargne polluante. Bénédicte Moret, vous avez calculé les émissions carbone de vos faits et gestes, à vous et à votre famille. Vous en êtes aujourd'hui à combien de tonnes ?
J'ai pas le bilan de cette année, mais on a considérablement réduit. Je saurais pas vous dire exactement cette année.
Cette année, non.
J'ai pas la réponse.
Mais vous l'aviez. Vous avez un chiffre pour d'autres années ou pas du tout ?
Si mes souvenirs sont bons, non, je sais plus, je suis désolée.
Pas de souci.
C'est un petit peu en stress. C'est la première fois que je passe à France Inter.
Ah, c'est pour ça. Je comprends. Moi, c'est la deuxième fois. On n'a pas fait notre première ensemble. Malgré l'urgence, quand on lit votre BD, The Journal de la Famille Zéro Déchet, on sent que finalement, ce qui a presque été le plus compliqué, c'est l'incompréhension, parfois totale, des gens que vous croisez. Il y a une dame au pressing, par exemple, où il y a le fromager de votre grande surface. Et finalement, le plus dur, en tout cas quand on lit votre BD, on a l'impression que c'est le regard des gens.
Oui, c'est sûr, c'est pas facile, mais je crois que dans l'ensemble, les gens ont peur, en fait. Ils ont peur du changement. Et le fait de voir une famille comme la nôtre, ou même simplement des petits gestes au quotidien, ça leur rappelle que eux ne font pas les choses, peut-être, et du coup culpabilisent. Donc la meilleure défense, finalement, c'est d'attaquer. Ce qui est dommage, parce qu'au contraire, il faudrait peut-être juste s'inspirer. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas facile. Il faut avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules. C'est pas toujours évident. On est beaucoup critiqué quand même. On peut être traité d'extrémiste, mais je crois qu'on sait pourquoi on fait ça et ça a un impact. Donc plus il y aura de monde avec nous et plus ça nous renforcera dans nos convictions et on ira encore plus loin.
Et en même temps, le zéro déchet, ça implique de faire beaucoup les choses par soi-même. Ça implique, par exemple, de faire sa propre lessive, son propre dentifrice, ses propres plats aussi. Évidemment, on fait beaucoup plus de choses par soi-même. Et il y a aussi une flemme à faire les choses par soi-même, non ? Bénédicte
alors,
Moret.
Oui, évidemment. Quand on a commencé en 2014, tout ce qui est en vrac n'existait pas. J'entends tous les produits ménagers, la lessive, le liquide vaisselle, tout ça. On était obligé de faire tout par nous-mêmes si on voulait vraiment réduire nos déchets. Donc, effectivement, on s'est mis à cuisiner beaucoup plus, autant pour les produits ménagers que pour les recettes des repas. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Si on n'a pas envie de faire tout ça, c'est possible. Tous les magasins de vrac aujourd'hui nous vendent de la lessive ou du liquide vaisselle. Donc, si on n'a pas envie, c'est possible, on peut gagner du temps. Après, c'est vrai que les repas, on gagne quand même forcément à prendre du temps sur la préparation des repas. Mais c'est du temps, je trouve, qui est de qualité et qui est important. C'est du temps qu'on va partager en famille aussi. C'est peut-être aussi autant de temps qu'on mettra pas devant Facebook ou devant Instagram. Moi, je préfère me boire
vous
un petit verre de vin, mettre
quand même
un peu
sur
de musique.
Instagram.
Mais pas tant, vous diront mon public vous dira qu'elle répond jamais aux messages, la pauvre, elle poste jamais rien parce que
comme quoi,
pas le temps.
Tout est relatif.
Oui, voilà, il faut faire des choix, après on n'est pas obligé de tout faire.
Vous êtes donc une famille zéro déchet, mais zéro déchet c'est utopique, on n'est jamais zéro déchet dans notre monde, puisque déjà quand on parle de zéro déchet, on parle beaucoup des déchets ménagers, on parle pas par exemple des déchets numériques, on parlait hier dans cette émission du fait que quand on envoie des mails par exemple, on pollue, là en l'occurrence vous n'êtes pas zéro déchet sur ce genre d'univers, sur ce genre de domaine.
On n'est pas zéro déchet sur plusieurs domaines même. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a rajouté le presque sur notre premier livre. C'était la famille presque zéro déchet. Et donc, il y a les mails, oui, effectivement. Il y a tout ce qui va être la vidéo numérique, qui est un secteur très, très, très énergivore. L'argent à la banque, comme vous disiez tout à l'heure, qui est aussi un très gros secteur. Voilà, il faut vivre avec son temps. Et non, le zéro déchet absolu n'existe pas. Et on ne revendique pas ça.
Pendant le confinement, il y a quelques semaines maintenant, beaucoup de familles impliquées, elles aussi, comme vous, dans cette envie, ce besoin de moins produire de déchets, ont eu des difficultés pour rester en accord avec leurs envies, leurs besoins, parce que c'était plus dur d'acheter en vrac, que les légumes étaient encore davantage empaquetés, que les masques, pour beaucoup, étaient jetables. Hein, ils se retrouvent par milliards aujourd'hui dans les poubelles. Comment vous avez fait, vous ?
Oui, effectivement, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus de gens qui ont eu plus de mal, qui ont voulu s'y mettre, qui n'ont pas pu. C'est vrai que ça a été problématique. Je pense que ça a été problématique dans certaines régions. Moi, j'ai eu la chance, personnellement, dans mon réseau à moi, de pas avoir eu trop de changements. Mais on a continué à me servir en vrac, donc ça a été. J'ai pas eu plus de déchets qu'avant. Par contre, après, oui, c'est vrai que la crise sanitaire a accentué le tout plastique. On a vu des cafés servis dans des gobelets en plastique à emporter. Enfin, c'est triste, hein. C'est dramatique, mais bon, en espérant que c'est juste une phase.
Juste une phase. Il y a autre chose que l'on pointe souvent quand on parle du zéro déchet, c'est que souvent, le partage des tâches entre les hommes et les femmes, il incombe d'autant plus aux femmes dans les familles zéro déchet. Dans la BD, j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour vous. J'ai l'impression qu'avec votre compagnon, vous êtes assez raccord sur qui fait quoi. Mais malheureusement, la charge mentale liée au zéro déchet, elle est souvent féminine. Comme la charge mentale
oui,
tout court.
Oui, je crois. C'est ce que j'allais dire, justement. J'allais dire que c'est pas nouveau. La charge mentale, c'est depuis longtemps principalement la femme qui l'a. Heureusement, ça évolue, ça change. J'espère que ça changera de plus en plus. Mais la charge écologique, oui, effectivement, la femme est quand même plus moteur. C'est ce qu'on a pu aussi se rendre compte pendant les conférences, c'est qu'on a principalement des femmes. De moins en moins, hein. Il y a quand même de plus en plus d'hommes depuis quelques années qu'on tourne. Mais ça reste quand même timide. Et c'est peut-être parce que la prise de conscience vient de là aussi, je sais pas.
Vous l'expliquez?
La femme est l'avenir de l'homme.
mais vous l'expliquez? Le fait qu'il y ait plus de femmes qui s'y intéressent en premier lieu?
Je sais pas. Peut-être que l'homme a peur du changement.
Qu'elle soit.
J'avoue, je ne l'explique pas. Ouais.
Allez, faisons des généralités comme ça.
Voilà. Non, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas.
Bénédicte.
Que ça change.
Moret, si vous avez des questions, vous qui nous écoutez sur le zéro déchet, n'hésitez pas, 01 45 24 7000, avec le mot-clé « Chacun sa route » sur les réseaux sociaux. Mais avant, Bénédicte, je vous propose d'écouter Coralie Chaube. Bonjour Coralie.
Bonjour.
Vous êtes journaliste pour Libération. Chaque jour, un journaliste différent vient nous éclairer sur les enjeux de la planète.
Tu crois qu'on est foutu?
Ah non, en passant par là.
Chacun sa route.
On s'en sortira.
En passant par là?
Oui. Par là.
Sur France Inter.
Et Coralie Chaube, vous avez choisi de nous faire rêver aujourd'hui.
Oui, cette semaine, je voulais vous parler d'un endroit merveilleux, féerique, qui mêle les arts et la nature, le domaine de Chaumont-sur-Loire, près de Blois. On y trouve un superbe château Renaissance qui a appartenu à Catherine de Médicis et Diane de Poitiers, et dont les pièces sont truffées d'œuvres d'art contemporain. On y trouve aussi d'incroyables écuries et un immense parc paysager, eux aussi parsemés de sculptures et d'installations d'artistes contemporains. Mais c'est là surtout qu'a lieu depuis 1992 le très renommé Festival international des jardins, consacré cette année à une thématique écolo, le retour à la terre-mère. Parmi la trentaine de jardins présentés, certains nous apaisent, d'autres nous heurtent ou nous secouent. Mais tous nous font réfléchir à notre lien avec la nature.
Et deux jardins ont particulièrement retenu votre attention.
Alors oui, le premier porte un nom amusant. Il s'appelle le jardin de Gaïa Aïaïaï. Gaïa, c'était la déesse mère dans l'Antiquité grecque qui personnifiait la terre fertile, nourricière. Alors pourquoi Aïaïaï? Parce que quand on entre dans ce jardin, on tombe sur des cactus qui poussent au beau milieu de bouchons de bouteilles en plastique ou sur un sol jonché de canettes de bière ou de soda. Alors là, on retombe sur le thème du jour parce que certes, c'est bien trié, mais c'est pollué. Et même dans les arbres, les pommes qui poussent sont en plastique. Alors, aïe, tout ça est un peu déconcertant, un peu déprimant.
Et pas très beau.
Et pas très beau.
En plastique.
Même si c'est multicolore. Mais enfin
ah,
bon,
ah, pardon.
Bof, pas très beau, non. mais tout n'est pas perdu, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ce jardin, il redevient luxuriant. On retrouve des fleurs, des fruits, des céréales, des plantes médicinales. Bref, toute la générosité de Gaïa. Preuve qu'elle peut être résiliente et qu'il nous est possible de retrouver l'harmonie avec la nature. Preuve qu'on peut coopérer avec elle, s'y sentir bien et qu'on n'est pas obligé de la polluer, de la saccager. Alors le deuxième jardin que je citerai s'appelle Terre Marché. On y déambule comme dans un hypermarché, mais les produits y sont présentés sous leur forme originelle. C'est-à-dire qu'à la place du jean et de la chemise, on vous propose du coton et du lin dans un pot en terre cuite. Au rayon pop-corn, vous trouvez quelques plants de maïs et de la betterave à sucre. Donc c'est une manière là de nous rappeler que tout ce que nous consommons nous vient de la terre. Elle nous nourrit, elle nous habille, elle nous soigne, elle nous protège. Et donc c'est à nous de la protéger aussi et vite. Et c'est à nous de retrouver le jardinier qui sommeille en chacun de nous. Donc j'invite vraiment vos auditeurs à visiter ce magnifique et très riche Festival des Jardins, qui moi personnellement m'a vraiment beaucoup touchée. C'est à Chaumont-sur-Loire et c'est jusqu'au 1er novembre.
Donc on a un petit peu le temps. Coralie Chaube, vous n'êtes pas venue seule?
Alors oui, je suis venue avec, je fais un peu de promotion pour...
Mais c'est une double promotion puisque c'est une promotion France Inter Libération.
Donc, je ne sais pas si j'ai filmé ou pas, mais voilà la une du jour à la poursuite du diamant vert, référence au fameux film, hein, je sais pas si vous avez saisi la référence, pour rebondir sur la vague écolo municipale et puis la réponse d'Emmanuel Macron à la Convention citoyenne sur le climat. Et puis, ce hors-série qu'on a fait avec vous. France Inter.
Demain la Terre.
Voilà,
qui est très intéressant.
Qui fait le tour du monde d'initiatives écolo, qui permettent de protéger, de préserver cette belle Gaïa.
À lire sur la plage ou où vous voulez finalement, ça se lit absolument partout. Voilà. Bénédicte Moret, est-ce que l'on sait s'il produisait beaucoup de déchets à l'époque de Catherine de Médicis?
Ah, j'en ai aucune idée. Moi, j'imagine largement beaucoup moins que nous. Ça, c'est sûr. Parce que les principaux déchets, ça va être l'industrialisation qui va les amener un petit peu plus tard.
Vos questions sur le zéro déchet, 01 45 24 7000. Des chants en zoulou et en anglais. On part en Afrique du Sud avec le Quatuor Urban Village. Satsiki's Way, littéralement construire une nation. Je sais pas si je l'ai dit avec le bon accent. Tout un programme sur France Inter. Bon, bon. Wam, wam, wam,
wam, wam. Take me by the hand and lead me down the road. A road to a place where every soul is one. Share wisdom. Hang it to your zinsela. Hibu swag uba papi. Him u sakisis. Him u sakisis. Sibambi sen sakisis. Around the fire, the men echo a chanting rhythm. Give me now where sake sees. Give me now where
This is Way, Urban Village, sur France Inter. Bénédicte Moret est l'invité de Chacun sa route, en duplex de Bayonne, ensemble avec vous au 01 45 24 7000 pour parler zéro déchet. Je suis aussi avec Coralie Chaube qui est restée journaliste à Libération. Coralie, vous aviez une première question pour Bénédicte.
Oui, je voulais vous demander, éliminer les déchets d'emballage alimentaire ou cosmétique, c'est assez facile, mais qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile à mettre en œuvre? Qu'est-ce que vous n'avez pas réussi à éliminer?
La voiture, il y a pas mal de déchets liés à la voiture, c'est compliqué, surtout dans les Landes, vu qu'il pleut beaucoup. On n'a pas beaucoup de transports en commun. L'ordinateur, tout ce qui va être informatique aussi, c'est très compliqué, via mon travail, j'ai pas beaucoup de choix.
Puisque vous êtes illustratrice.
Voilà, je travaille avec des gros ordinateurs et des tablettes graphiques, donc j'aurais du mal à m'en passer. Bon, voilà, après, des petites choses, hein. Il y a des choses où on a encore du mal, qui persistent, c'est les croquettes du chat. Alors, je bloque. Je trouve pas en vrai
chez moi. C'est les chats qui bloquent ou c'est vous qui bloquez?
Alors, les deux, non. Moi, je ne bloque pas. C'est plutôt le réseau de distribution qui fait que j'ai pas de proposition de croquettes en vrac. Donc, je ne peux même pas leur en proposer. Et en dehors de ça, les croquettes emballées dans du carton, ils en veulent pas. Ils trouvent ça dégueulasse. Donc, du coup, on n'a pas le choix. C'est le déchet qui persiste, pour le coup, annuel.
Ouais, les déchets animaliers. C'est vrai qu'on n'y pense pas, pas forcément en premier.
Il y a beaucoup de questions là-dessus.
Et souvent, on entend aussi que passer au zéro déchet, c'est plus cher. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
Alors, nous, c'est l'inverse. Non, ça coûte pas plus cher de fabriquer ses produits. Au contraire, plus on fera soi-même et moins on dépensera. Parce qu'on achètera beaucoup de matières premières, qui fait que du coup, tout nous coûtera moins cher. Après, il y a une question d'organisation et puis il faut aussi calculer tout dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on peut pas juste passer au vrac et dire ça coûte plus cher. Oui, effectivement, acheter en vrac, acheter bio, ça va coûter plus cher. Par contre, si on prend toute la globalité de la démarche, c'est-à-dire qu'on va arrêter aussi d'aller acheter des vêtements neufs tous les week-ends, on va réduire notre consommation d'énergie, on va réduire nos déplacements, on va réduire beaucoup de secteurs qui consomment beaucoup d'argent. J'arrive plus à parler. Et du coup, voilà, quand on fait le global de tout ça, on réduit sa note. Nous, on a réduit notre note la première année de 20%. C'est quand même énorme.
Et depuis 20% la première année et depuis?
Après, on est monté à 30% et puis on stagne. Après, on remonte des fois. Ça dépend aussi notre façon de vivre, les loisirs, tout ça. C'est pas lisse. Mais ça reste qu'on dépense quand même beaucoup moins qu'avant.
Plus l'argent que vous gagnez en faisant la promotion du zéro déchet.
il faut bien vivre.
Non, mais parce que c'est devenu un travail à temps plein pour vous, Bénédicte Moret. Votre nom de scène d'illustratrice, c'est Bluetooth. Vous avez notamment créé le petit livre vert pour la Terre de la Fondation Nicolas Hulot. On vous doit aussi le petit guide pour vos amis biosceptiques, c'est pas facile à dire. Il y a un blog sur la famille zéro déchet, un livre, donc maintenant une BD. Vous vous apprêtez à sortir à la rentrée un jeu de société et une série de BD pour les enfants. Vous ne vous lassez pas de ce thème?
Alors, à la rentrée, ce sera pas des BD sur le thème. Justement, je vais sortir du thème parce que là, je pense qu'on l'a bien essoré dans tous les sens. Donc, mon métier, c'est pas le zéro déchet, c'est la BD. Donc, forcément, c'est pour ça qu'on me voit un petit peu là-dedans. Après, par rapport au jeu, par rapport au livre qu'on a déjà sorti, c'est bien, je pense, de multiplier les supports parce qu'on va peut-être toucher plus de personnes différentes. Tout le monde n'est pas sensible au même support, au même visuel. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai sorti cette BD. Je me suis dit qu'il y a plein de gens qui aiment pas lire, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, qui n'ont pas la forme. Mais par contre, lire une BD, c'est facile. C'est en deux, on peut lire trois pages et puis ça peut-être planter des petites graines à droite, à gauche.
Nous sommes en ligne avec Bruno. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Votre question pour Bénédicte Moret.
Alors, oui, d'accord. Donc, en fait, moi, j'aimerais avoir des conseils pour inciter ma famille à être plus éco-responsable, tant au niveau des déchets que du transport, de la consommation donc de produits, parce que, par exemple, j'ai mes enfants qui adorent manger une pâte à tartiner bien connue au chocolat, et ils n'en démordent pas pour ne pas changer de cette pâte à tartiner. Et donc, sachant que bah, je leur explique qu'il y a de l'huile de palme et qu'il y a des conséquences très négatives sur l'environnement, voilà, dans le monde. Donc, voilà.
Comment passer à l'étape supérieure, en fait ? C'est ça ?
Pardon ?
Comment passer à l'étape supérieure, en fait ?
Voilà, c'est ça. Parce que moi, je passe un peu pour l'ayatollah de l'écologie à la maison. Et donc, voilà, je sais pas comment les convaincre ou en tout cas les inciter à être un peu plus éco-responsables, voilà.
Merci Bruno pour ce témoignage. Bénédicte Moret, comment on fait ?
Alors, nous, avec nos enfants, ça a été un peu la même problématique au début, c'est qu'ils voulaient toujours tout acheter chaque fois qu'on allait faire les courses. Ils voulaient les desserts, ils voulaient la pâte à tartiner, ils voulaient tout. Donc on disait non, 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 non. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que c'était pas la meilleure méthode de dire non à chaque fois qu'ils demandent quelque chose. Donc on a choisi de les impliquer dans la démarche, donc de leur dire bon, écoutez, là, on fait une aventure familiale, on a décidé de réduire les déchets, vous êtes avec nous. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on peut trouver à faire ensemble ? Donc ils ont dit bah on peut peut-être les fabriquer nous-mêmes. Donc du coup là on a fabriqué la pâte à tartiner, on a fabriqué les desserts ensemble. Donc ça crée une activité aussi avec les enfants. Je sais pas quel âge ont les enfants de Bruno, mais c'est vrai quand ils sont petits c'est plus facile. Et du coup finalement leur pâte à tartiner ils la trouveront encore meilleure parce que c'est eux qui l'ont fait. Donc ça c'est formidable. Après c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui sont réticents dans les familles en disant c'est bon il nous saoule, il veut faire du zéro déchet, il est extrême. Peut-être qu'il faut être un peu plus modéré, y aller doucement, goutte par goutte, changer habitude par habitude. On dit une habitude, c'est 21 jours pour qu'elle se mette en place. Donc, on change une chose. Une fois que tout le monde est habitué, on change une autre. Il faut prendre son temps. Si on va trop vite, si on saoule trop, les gens ils vont être réticents.
Bruno, vous êtes toujours là ?
Après, c'est aussi le problème du transport. Je vois, mais de prendre l'avion, ça leur pose pas de problème. Voilà, pour rendre visite à leur à la famille. Voilà, on a de la famille au Canada. C'est un peu compliqué. Donc
oui, c'est avoir des arguments en fait. C'est-à-dire que une fois qu'on se dit oui, on sent qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour la planète. C'est comment convaincre les gens de réellement faire quelque chose pour cette planète.
Alors effectivement, on peut montrer plein de reportages qui existent déjà, plein de supports vidéo, il y a énormément de contenu disponible pour justement montrer l'importance de ces gestes-là. Après, pour ce qui est en revenir de l'avion, quand vous parlez de votre famille qui est au Canada, moi j'ai ma famille qui est aux États-Unis aussi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et forcément, on se dit ben j'ai envie d'aller les voir, mais prendre l'avion, long courrier. Mais après, c'est toute une question de quantité. Si on choisit de faire un voyage tous les 2 ans et de pas en faire tous les 6 mois ou tous les mois ou pas des petits courriers pour aller à droite à gauche, bah déjà on a fortement réduit son impact. Il faut savoir qu'on a un quota annuel d'émissions de CO2 à chacun pour éviter que le réchauffement climatique ne s'aggrave, qui est de 2 kilos équivalent carbone, si je dis pas de bêtises. Et donc, si on fait le quota à l'année de tout ce qu'on consomme, on peut s'accorder quand même certains voyages.
Certains voyages. En même temps, vers le Canada ou les États-Unis, on a vite fait quand même de grimper. On peut pas faire grand-chose d'autre
dans
l'année, quoi.
Mais voilà, c'est ça. Ah bah c'est sûr que ça réduit fortement. Après, on peut se déplacer autrement, de manière plus locale. Il y a du choix en France.
Vous avez aussi expérimenté la vie en tiny house, dans un tout petit espace. Vous pouvez nous raconter ?
Oui. Alors, on était dans un mobilhome, dans un camping. Donc c'était très sympa, on avait à peu près 34 mètres carrés, donc c'est quand même un espace relativement petit pour une famille de 4 avec 2 chats, mais c'était tellement ouvert sur l'extérieur que finalement on ressentait pas vraiment la gêne de l'espace. Ça nous a permis de réduire énormément ce qu'on avait, donc de rentrer quand même dans le minimalisme, et ce qui est libérateur aussi dès qu'il faut partir en voyage ou déménager, on remplit les valises, c'est bon, on a rempli toute la maison. Donc c'est très simple, pour le ménage c'est du bonheur. Alors, en 20 minutes, c'est terminé.
C'est plus pratique, oui. Merci beaucoup, Bénédicte Moret. La BD The Journal de la Famille Presque Zéro Déchet est en vente partout. Merci aussi pour le duplex aux équipes techniques de France Bleu Pays Basque à Bayonne. Dans un instant, c'est un voyage sensoriel et spirituel, une transe peut-être, dans chacun sa route. Le réalisateur Yann Kounon nous prend par la main et nous emmène au cœur de l'Amazonie.